Beauté, une émission de Christiane Hervaux sur Radio Alliance Plus.
Bonjour chers auditeurs et chères auditrices, merci d'être avec nous pour notre émission, pour l'émission Dans nos communautés. Habituellement, si vous nous écoutez le vendredi soir, le dimanche, le lundi soir et après autant que vous voulez en podcast, et vous aurez la joie d'entendre et de réentendre, si vous le voulez, Michel Jasse. Bonjour Michel.
Bonjour.
Michel Jasse, vous êtes pasteur à la retraite et vous avez fait beaucoup de paroisses ici et là. Et
toujours, dans le midi.
Toujours dans le midi. D'ailleurs, ça s'entend à l'accent, vous ne l'avez pas perdu. Vous avez bien aimé le garder. Et donc là, dernièrement, vendredi 21 juin, vous avez fait votre entrée à l'Académie de Nîmes. Et voilà. Alors, eh bien, c'est de cela que nous allons parler, de l'Académie de Nîmes,
oui.
En premier lieu. Et puis, vous avez donné une conférence. On n'appelle pas ça conférence.
Si, c'est-à-dire qu'après, il y a l'accueil. Et puis après, j'ai dit quelques mots de remerciement. Et puis, il fallait que je fasse une intervention. Alors, j'ai fait une petite conférence. Quoi.
Donc, et votre intervention a porté sur des pasteurs. Jean-Pierre Gardel.
Voilà. C'est-à-dire que j'ai occupé le siège de Jean-Pierre Gardel.
Oui.
C'est très hiérarchique, l'Académie de Nîmes. Donc, j'étais accueilli à un siège qui était occupé avant par Jean-Pierre Gardel. Et avant Jean-Pierre Gardel, il y avait Aimé Boniface, un autre pasteur. Et j'ai parlé d'un troisième pasteur qui a été pasteur à Nîmes à la fin du 19e siècle et pendant la guerre de 14. Puis, il est mort entre les deux guerres.
Voilà. Donc, on ne va pas retracer toute l'histoire et la vie de ces trois pasteurs,
oui.
Dont un, Jean-Pierre Gardel, est toujours vivant.
Oui.
Mais nous allons repartir pour notre deuxième partie d'émission, un peu en arrière avec donc ce pasteur Louis Trial, qui n'est peut-être pas si connu que ça, même s'il était nîmois.
Oui.
Alors, cette entrée à l'Académie, Michel Jasse, comment ça se fait? On vous a appelé? Vous avez reçu un appel, comme on dit, de la part des pasteurs, où vous avez beaucoup d'amis à l'Académie et ils vous ont parlé déjà de rentrer à l'Académie. Donc,
oui,
comment ça se fait?
C'est-à-dire que, comme j'ai été pasteur à Nîmes, à l'époque, c'était le poste du Grand Temple, et en 92, je suis arrivé à Nîmes pour 10 ans, et en 98, le secrétaire perpétuel et le président m'avaient demandé de rentrer à l'Académie. Alors, dans un premier temps, en général, on rentre et on devient membre correspondant, et puis après, on est membre à part entière. Et alors, j'ai eu juste le temps d'être membre correspondant. J'avais donné une communication. J'étais allé à quelques réunions, mais j'étais pris comme pasteur de paroisse. J'y allais pas souvent, mais de temps en temps. Et puis après, je suis parti à Montpellier. Alors, pour me punir d'être parti à Montpellier, je ne recevais plus les comptes rendus des réunions, etc. Et puis, quand à la retraite, je suis revenu à Nîmes, ils ne m'avaient pas oublié. Ils m'ont redemandé de venir et pendant 2 ans, là, j'assistais aux conférences comme membre correspondant. Et puis, et là, maintenant, le moment est venu où alors je dois être membre à part entière.
Voilà. Donc, c'est tout un processus quand même.
Oui. Hein,
que l'Académie, c'est très académique. Donc, c'est un peu carré.
Oui, j'avais pas trop cherché cette dimension un peu vieille France. Quoi, dans le sens. Et oui, dans le sens, c'est vieille France parce que l'Académie de Nîmes a été créée juste après l'Académie de Paris et avant l'Académie d'Arles sur Rhône. Et c'est l'époque où Nîmes était une grande ville, c'était la plus grande ville du Languedoc. On ne parlait pas de Montpellier ou de Toulouse, qui étaient des petites villes. Nîmes était une grande ville industrielle, et en fait, il y avait aussi un milieu savant considérable. Donc, elle a été créée, on dit toujours, par lettre patente, Louis XIV, avant de révoquer l'édit de Nantes et de persécuter les protestants, il avait créé une académie mixte, où il y avait des protestants et des catholiques. Et c'était un peu donc, comme une société savante. Et après, il y a eu un peu la mode des académies dans toutes les villes au 19e siècle. C'est des sociétés littéraires, sociétés savantes. Alors, on nomme des gens qui ont écrit des livres, des gens qui ont enseigné dans les universités. Et puis alors souvent, ça fait bien d'avoir... Il y a des prêtres qui vont... en général, c'est des vicaires épiscopaux qui sont bien vus, etc. Et puis là, à Nîmes, comme on est quand même dans une ville protestante, il y a un sous-groupe protestant assez dynamique.
D'accord, très bien. Alors, quelque chose qui vous honore de faire partie de l'académie. Comment vous vous sentez par rapport à ça, vous, simple pasteur? Au départ.
Ça m'a plutôt ennuyé, cet aspect un peu vieille France, ça m'a plutôt ennuyé.
D'accord.
Mais j'avais presque envie, j'en ai parlé à plusieurs amis, je disais, moi j'ai envie de rester que correspondant, parce que j'assistais à des conférences, j'étais un peu en retrait, au deuxième rang, mais maintenant d'arriver au premier rang, ça m'ennuie un peu, parce que ça fait... Les gens avaient insisté pour que j'y sois, quoi. Et puis je rencontre, il y a un ancien... L'ancien vicaire épiscopal que je connaissais quand j'exerçais ici et qui m'intimidait un peu quand j'étais pasteur. Lui, il était représenté un peu l'évêque, il était assez solennel. Maintenant, il est prêtre retraité et c'est le père Fougère. Et on est devenus amis et je suis content d'être avec lui à l'académie. On fait de l'écuménisme comme ça, quoi. C'est pas prévu pour l'écuménisme, mais on sera assis à côté.
Oui. Oh, il y a des personnes très agréable et très oui. Voilà, bon enfant, je dirais même un peu, hein, puisque vous m'aviez invité. C'était la première fois que j'y allais, première fois que je rentrais dans cette salle avec tous ces fauteuils et puis où on vous attendait pour vous faire rentrer officiellement à l'académie. Donc c'est vrai que c'est un petit peu solennel,
oui,
mais en même temps, ce sont des personnes assez simples. Il y a Alain Péchina, par exemple, qui a parlé de vous. Voilà, c'était... Voilà.
Et c'est lui l'actuel président.
D'accord.
Donc chaque année, on change de président. Et par contre, pour plusieurs années, il y a un secrétaire perpétuel qui fait énormément, actuellement, il fait énormément de boulot parce qu'il a monté le site internet. Donc on peut aller sur le site internet Académie de Nîmes et là, il y a énormément de documents. On peut même remonter dans les siècles. Il y a le 20e siècle, 19e, 18e, 17e. On peut lire énormément de documents qui sont référencés et qui sont sur le site.
Mmh. Et alors, comment est-ce que c'est organisé? Donc, vous venez de parler du président et puis de...
Le secrétaire perpétuel.
Le secrétaire perpétuel. Il y a d'autres personnes... hiérarchique ou après, vous êtes
alors,
tous
il y a
un
des,
peu
il y a
sur
des,
le même...
des travaux en commission. Donc, il y a la commission des actes, par exemple, la publication des... Donc, il y a une revue qui s'appelle le Mémoire de l'Académie de Nîmes et qui présente les différentes activités, ce qui a été discuté. Et puis après, les mémoires de l'Académie qui donnent les articles, les conférences. Et alors, donc, il y a des commissions qui travaillent cela. Il y a aussi une commission pour l'arc méditerranéen. En fait, l'Académie de Nîmes est en contact avec d'autres académies en France, en Italie, Espagne et dans le Maghreb. Et pour essayer de réfléchir à l'orientation intellectuelle de nos régions de l'arc méditerranéen et puis en lien avec ces différents pays.
Donc, les commissions, elles ont donc un domaine particulier chacune.
Oui.
Et elles se réunissent en plus de la réunion traditionnelle du vendredi pour travailler ensemble et produire quelque chose.
Oui, il y a des livres qui ont été publiés aussi. Nîmes vu par les académiciens. Donc, ce livre, on le trouve dans les librairies et puis dans la bibliothèque de la médiathèque. Donc, il y a quand même pas mal de choses qui sont faites. Il y a eu des dons dernièrement de vieilles cartes postales. Et en fait, il y a toute une équipe qui travaille, qui classe ces cartes postales pour peut-être éditer ou le mettre sur un site internet. Il y aura une vision de la France à partir d'un ancien académicien qui avait fait cette collection.
D'accord, d'accord. Et c'est donc il peut y avoir des articles, il peut y avoir des livres, il peut y avoir et les sujets qui sont traités comme ça en commission, ils servent à qui? Simplement de réflexion entre vous?
Oui. C'est peut-être un peu gratuit dans certains sens. C'est, bon, les académiciens, il y a pas mal de professeurs de Montpellier qui sont à l'Académie de Nîmes. Des professeurs de médecine. On a eu une conférence alors, de M. Firoud avant mon intervention, le vendredi 15 jours avant. On a eu M. Firoud qui travaille pour la région Occitanie, à la fois Toulouse et Montpellier. Mais en même temps, moi, je connaissais son grand-père qui était un footballeur de Nîmes, de Nîmes Olympique, et qui était, je crois, algérien ou marocain d'origine, c'est pour ça ce nom. Et puis et je connaissais bien sa grand-mère, qui était une protestante pratiquante dans les villages autour de Nîmes. Et en fait, voilà. Alors, M. Firoud nous a donné une communication tout à fait, assez lourde. C'était difficile à suivre, toujours, mais sur l'intelligence artificielle, parce qu'il travaille sur ça, savoir comment la communication va changer dans la région Occitanie. Là-dessus. Il y aura un autre, là, vendredi, il y avait le professeur Marès, qui est professeur de médecine. Il y avait plusieurs professeurs de médecine. Je n'ai pas donné une conférence sur la médecine, ce n'était pas mon sujet. Mais enfin, voilà, donc aussi, on peut entendre des conférences sur l'évolution des méthodes pour le soin ou les opérations, etc. Enfin, c'est quand même... Ici, à Nîmes, on a un CHU assez reconnu, quoi, en même temps qui est presque à égalité de celui de Montpellier.
Et vous êtes nombreux dans cette académie? Il y a beaucoup de votre personne? Vous savez à peu près combien?
Ça, je ne sais pas trop. Peut-être une trentaine d'académiciens. D'accord. Puis alors, il y a les membres correspondants, il y a les membres invités, il y a les membres... non résidents, il y a les membres honoraires, etc. Et alors, en fait, il y a un mouvement d'un groupe à l'autre.
Tout le monde ne vient pas forcément à chaque fois.
Oui, bien sûr. Ouais.
Donc, le but, c'est d'avoir d'avoir un peu plus de savoir, de faire connaissance avec d'autres choses, voilà. Mais entre soi. Et puis éventuellement, voilà. À l'extérieur quand c'est possible.
Oui, alors c'est peut-être un peu, effectivement, un peu cloisonné. Mais alors bon, mais c'est dans toutes les villes. Alors maintenant, il y a une académie à Montpellier. Alors en général, ce sont les profs de fac qui sont retraités, qui rentrent à l'académie de Montpellier et qui dissertent sur les sujets qu'ils ont enseignés. Et puis, il y a une académie dans toutes les villes. Donc, j'ai parlé de celle d'Arles, qui est ancienne. Il y a une académie à Alès, mais qui est récente, enfin, qui est du 19e siècle, qui n'a pas la notoriété de l'académie de Nîmes. Et puis, quand j'étais pasteur dans l'Aude, j'ai été accueilli et nommé à l'académie de Carcassonne. Bon, alors, on parle peut-être un peu plus de Qatar à Carcassonne. C'est pour ça que j'ai pas mal intervenu... plusieurs fois là-bas, et je vais y retourner cet automne.
Oui, vous en avez parlé aussi dans les émissions. Donc, si les auditeurs ont envie d'en savoir plus sur les Qatars, là, il faut aller écouter Michel Jasse sur nos ondes. Eh bien, je vous propose de faire une pause musicale maintenant que vous avez choisi. Et vous avez choisi Fatou Mata Diawara. Oula! Ça y est, je commence à mal prononcer ce nom, parce que c'est une très bonne chanteuse africaine qui chante en Bambara. Et donc, vous avez choisi cette chanteuse parce que nous allons parler tout à l'heure de Louis Trial, qui est un pasteur et dont le fils est allé en Afrique.
Georges Trial, oui. Voilà. Après la guerre de 14, voilà. Au lieu de prendre le pastorat, parce qu'il avait fait des études de théologie, et au lieu de faire comme son père et son grand-père, devenir pasteur, il est parti en Afrique et il a écrit beaucoup de romans sur les chimpanzés, les gorilles. Et puis, il a critiqué la colonisation française au Gabon. Voilà. Et alors, j'ai pensé à cette chanteuse qui...
C'était très bien.
On ne va pas écouter du psautier huguenot, on va écouter de la musique de l'Afrique de l'Ouest.
C'est plus dynamique, je crois. Alors, nous l'écoutons, Fatou Mata Diawara. Et puis, nous revenons juste après pour continuer notre conversation avec Michel Jasse au sujet de l'Académie et de ce fameux pasteur Louis Trial.
Thank you. mume yala la badagamolo mume klona badagamolo neve dangida bendagamolo neve klona bendagamolo neve baramina bendagamolo neve yala mina bendagamolo.
Vous êtes toujours sur Radio Alliance Plus 103.2 et vous nous écoutez soit en DAB+, soit sur nos podcasts, sur notre site ou en direct peut-être. Et puis, eh bien voilà, nous sommes avec Michel Jasse, comme je vous l'ai annoncé tout à l'heure. Et nous avons parlé de l'Académie de Nîmes parce qu'il vient de rentrer à l'Académie de Nîmes vendredi dernier. Et donc, il a donné une intervention sur un pasteur qui s'appelle Louis Trial, pasteur nîmois, fameux pasteur qui, me semble, vous a impressionné quand même pour que vous le choisissiez.
Oui, alors
vous l'avez choisi.
Pourquoi je l'ai choisi? En fait, bon, c'est un peu le hasard, mais je voulais présenter un sujet protestant pour marquer un peu mon appartenance et puis faire une référence à l'origine de l'Académie de Nîmes, parce que si c'est Louis XIV qui a créé cette Académie nîmoise, une des premières sociétés savantes en France, c'était parce qu'auparavant, et pratiquement au même endroit, il y avait une académie protestante. Depuis le XVIe siècle, dans ce qui est à côté de la bibliothèque Séguier, enfin, l'ancienne bibliothèque municipale, bibliothèque Séguier, et à côté il y a le muséum, là c'était la faculté de théologie protestante de Nîmes, au XVIe siècle. Et à côté, il y avait le temple Saint-Marc. Le petit temple de Nîmes, il y avait le grand temple qui était là où il y a le théâtre municipal aujourd'hui, Bernadette Lafont, le théâtre. Là, c'était le grand temple de Nîmes. Et puis, il y avait un petit temple à côté de la faculté de théologie, le temple Saint-Marc, et qui a été reconstruit par les jésuites. Et alors, en fait, les locaux de l'académie, on est un peu à côté. Et je voulais quand même, et je l'ai rappelé, que cette académie actuelle a été créée justement pour remplacer l'académie protestante qui avait été petit à petit vexée. Et puis, il a fallu que l'académie protestante accueille des enseignants jésuites. Ça devait être mi-parti, etc. Donc, j'ai voulu prendre un sujet protestant. Et alors, lequel? J'ai pris un sujet d'un pasteur nîmois, pour rappeler un peu l'histoire de Nîmes, et qui a été président de l'Académie de Nîmes en 1920. Alors j'ai voulu évoquer, mais je le connaissais un peu, je l'avais déjà pas mal travaillé, cette histoire de Louis Trial, ce pasteur nîmois d'origine Cévenole. C'est parce que dans ma première paroisse, j'étais à Perpignan, j'étais tout jeune, et là je lisais dans la salle du conseil presbytéral, il y avait des vieux registres, et je lisais, et c'était très très bien écrit, c'était les comptes rendus du conseil presbytéral, écrits par le pasteur Louis Trial. Et quand je suis arrivé à Nîmes, comme pasteur, j'ai trouvé dans le foyer, j'étais à l'époque de la création du fonds protestant qui était donné à la bibliothèque Carré d'Art, à la médiathèque de Nîmes. Et on avait pris ce fonds protestant qui était à la maison presbytérale et pour que le transformer en maison du protestantisme. Et donc il fallait de la place. Et heureusement, Carré d'Art était en train d'être créé. Et je me suis occupé de la création de ce fonds en libérant l'espace de la bibliothèque. Et il y avait énormément de documents de Louis Trial. Et je pensais que c'était mon Perpignanais. Je pensais que c'était le même parce que le fils écrivait un peu comme le père. Et puis c'est en travaillant un peu la question que j'ai vu que non, c'était le fils qui était pasteur au Grand Temple. Et puis qui était très libéral. Alors moi, j'ai commencé à avoir l'étiquette de pasteur libéral. J'allais être, mais c'est quand je suis arrivé à Montpellier, après par la suite, j'étais président d'Évangile Liberté. Et en fait, je commençais à m'intéresser au protestantisme libéral et j'ai travaillé Louis Trial, qui a été un des chefs de file du protestantisme libéral à Nîmes. Et il était, mais alors en bonne entente avec le pasteur évangélique, le pasteur orthodoxe, qui s'appelait Charles Babu, comme la petite rue qui longe le Grand Temple. Charles Babu. Et puis alors, mes paroissiens au Grand Temple, j'ai leur posé des questions. Est-ce que vous vous souvenez des vieux pasteurs? Donc, eh bien, il y en avait un seul qui se souvenait de Louis Trial. Alors que de Charles Babu, on s'en souvenait beaucoup parce qu'on a à Nîmes, dans les milieux protestants, mais ça, je ne peux pas le raconter dans les ondes, mais on racontait plein de plaisanteries concernant l'étourderie du gentil pasteur Charles Babu. Qui était étourdi à la fin. Peut-être quand il était retraité, parce qu'on a des trous de mémoire quand on est un peu âgé. Mais, et alors, il y avait beaucoup de... Mais par contre, Trial, non, ça devait être un pasteur éloquent, mais on ne s'en souvenait pas. Il y en avait un seul de mes paroissiens, et c'est le père de Françoise Béchard, qui est très active aussi aujourd'hui
oui,
dans l'Église.
Ouais.
Et son père, je me rappelle, me parlait toujours. J'ai fait ma première communion avec le pasteur Louis Trial, qui était une grande personnalité, qui était connu de tout le monde à Nîmes, etc.
Alors, qu'est-ce qu'on peut en dire en quelques minutes? Parce que on peut pas tout retracer et toute l'intervention que vous avez faite, que peut-être nous pourrons diffuser sur Radio Alliance Plus, mais ce n'est pas encore tout à fait certain. Il nous faut vérifier si notre enregistrement est vraiment très bon
mais
pour faire honneur à l'Académie.
On peut lire dans les nouvelles, sur le site de l'Académie, on peut lire mon intervention au sujet de Louis Trial.
Ah, voilà. Alors, vous irez sur le site de l'Académie
oui.
Et vous aurez...
Le texte.
Vous pourrez lire ça à tête reposée, comme on dit. Le texte. Alors, qu'est-ce qui est frappant? Qu'est-ce qui vous paraît le plus important à dire sur Louis Trial?
Peut-être trois choses. Je crois que c'est quelqu'un qui a fait énormément de... Il a été un grand catéchète. C'est à la grande époque où on faisait le catéchisme. Il a écrit des livres de catéchisme. Il enseignait. Il voulait réformer les facultés de théologie. Il trouvait que les facultés de théologie étaient trop loin du réel. Il voulait... Donc, il a été... il a fait beaucoup de christianisme social, d'œuvres protestantes. Il a créé énormément d'œuvres. Il y avait 48 œuvres créées par Babu et Trial à Nîmes à cette époque. Il y a énormément de choses. Donc, il était très actif dans cela parce qu'il était, il pensait que le protestantisme allait apporter à la société. C'est à la grande, le mythe de le fait qu'on croyait à cette époque, au 19e siècle, que tous les gens un peu raisonnables allaient devenir protestants. C'est le mythe un peu aussi du socialisme de l'époque.
Oui. C'est très... On peut rappeler les dates de naissance et de...
1850 et 1934.
Voilà, c'est pour que...
Voilà. Et alors en fait, donc, il y avait... Donc on peut... Un homme qui est vraiment très, très actif. Et je crois qu'il était reconnu, on disait toujours, qu'il est très, un très grand prédicateur. Il prêchait tous les dimanches. Il n'y avait pas de sono au grand temple. Hein. Il devait remplir de sa voix. De façon un peu comme les hommes politiques de l'époque aussi. C'était très solennel, etc. Bon, alors ça, c'est un premier aspect. Deuxième aspect... C'est qu'il a, il a rapproché les libéraux et les orthodoxes pour le social. Troisième aspect, c'est qu'en théologie, je le trouve assez intéressant parce qu'en fait, il dépendait vraiment de la lecture kantienne en philosophie. Donc, il n'est pas du tout pour prouver l'existence de Dieu. Plutôt, pour lui, Dieu, c'est plus à l'avenir que lié à la création. C'est plutôt comme l'impératif moral chez Kant. Vous voyez, donc il y a quelque chose de moderne chez lui et qui peut permettre de dépasser toutes les questions qu'on a aujourd'hui, les gens qui disent « Oh, mais j'ai beaucoup de doutes à cause du problème du mal », etc. Parce qu'il place Dieu toujours comme cause du bien et du mal, finalement. Alors que non, si on dit que Dieu, c'est l'esprit, c'est la conscience, c'est plutôt un avenir qui est lié au monde vivant, les animaux, etc. Et puis l'humain qui doit progresser. Alors son défaut, peut-être, c'est quand même, il était dans un contexte quand même très évolutionniste, un peu, c'est l'époque des colonies françaises, c'est la grande époque. Donc il était bien à gauche, mais très utopique, quoi, finalement. Et ça, c'est quand même, je l'ai dit au moment de la communication, c'est que j'ai relevé le défaut de cette époque. C'est-à-dire que les protestants nîmois et français ont été accusés par les catholiques lors de la guerre de 1870. Ils ont été accusés d'être pour les Allemands. Emmanuel Dalzon, vous savez, il y a le lycée, le collège Emmanuel Dalzon ici à Nîmes. Emmanuel Dalzon, qui était un Cévenol aussi, mais très catholique, et qui était créateur de la revue La Croix. Enfin, c'était une grande personnalité. Mais Emmanuel Dalzon, il n'aimait pas les protestants, et il les a accusés de soutenir les Prussiens, les Boches. Et alors, les protestants, là, au moment d'un deuxième conflit, la guerre de 14, ils vont se montrer bien français. Un peu trop nationaliste. même beaucoup trop nationaliste. Et là, je crois que Louis Trial a été emporté par ça. Alors peut-être aussi, il était à l'Académie aussi. Il était à l'Académie des Nîmes. Donc il voulait aussi se montrer bien acceptable, comme, alors que les protestants étaient vus quand même un peu comme des juifs, un peu comme des marginaux, quoi.
Ah oui. Oui, c'est un peu dommage. On ne va pas rester sur cette fin, quand même.
Oui. Non, mais alors, c'est par rapport...
Mais après, il y a tellement d'autres choses.
L'aspect positif, c'est finalement son kantisme. C'est un lecteur de Kant. Il a fait ses études de théologie à Genève avec un jeune qui venait comme vous, je crois, de Charente. Jean-Jacques Gour. Qui a eu ses cours à Genève en même temps que Louis Trial. Ils ont été assez proches. Et Jean-Jacques Gour a été, après, il a exercé comme pasteur à Genève. Et puis, il a terminé comme professeur de philosophie à la faculté de théologie de Genève. Et ça a été, en même temps que Charles Renouvier, qui est assez connu quoi, comme grand kantien de langue française, Charles Renouvier qui donne Kant aux philosophes français, eh bien, en Suisse, c'était Jean-Jacques Gour qui était un grand ami de Louis Trial. Et alors, c'est quand même une pensée que je trouve vraiment formidable et qui garde une actualité pour essayer d'être croyant, mais ouvert à la modernité, ouvert à la philosophie, et puis pas du tout quelque chose de démodé, au contraire. Alors, je crois qu'on n'a pas essayé la pensée de Louis Trial.
Bien, eh bien, voilà, ça nous donne envie d'en savoir plus. Oh, c'est toujours trop réduit, nos émissions. On commence juste à se dire, tiens, je rentre bien dedans, et zou. Mais il y a la possibilité d'aller sur le site de l'Académie.
Voilà.
Il y a la possibilité aussi de vous écouter, Michel Jasse, dans Théologie en liberté.
Oui.
Et peut-être qu'un jour prochain, vous nous reparlerez de cet aspect kantien ou bien de Louis Trial lui-même. On ne sait pas encore, c'est très ouvert à Radio Alliance Plus. En tout cas, moi, je vous remercie beaucoup d'être venu nous parler et de l'Académie et de ce pasteur particulier. Qui vaut le coup, à mon avis, de faire connaissance un peu mieux. Eh bien, voilà, nous vous disons au revoir, Michel Jasse.
Au revoir.
Bonne suite pour vos émissions et aux auditeurs et auditrices, bonne semaine.